radio. L'invité du jour.
Nous allons découvrir aujourd'hui un artiste, auteur, compositeur, musicien, interprète, scénariste, metteur en scène, mais aussi coach d'acteur. Dans le monde artistique, on le connaît sous le nom du porteur de joie. Mais son véritable nom est Younes Watik. Ce n'est pas seulement un artiste, c'est une personne très humaine qui parcourt le monde et qui se nourrit de différentes cultures et qui transmet de belles valeurs aux nouvelles générations. Bonjour Younes.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Ouais, ça va bien.
Tant mieux. Dans un premier temps, pourquoi avez-vous choisi le porteur de joie comme nom d'artiste?
Alors tout simplement parce que, en fait je m'appelle Younes, c'est mon prénom. Je ne savais pas ce qu'il signifiait parce que c'est Jonas en français et Younes en langue arabe. Et j'étais en tournée et lors d'un concert, il y a une dame qui m'a dit « Tu sais ce que signifie ton prénom ?» Je dis non, elle m'a dit « Younes, c'est celui qui accompagne dans la joie, c'est le porteur de joie. » Donc c'est tout simplement la signification de mon prénom en langue arabe.
C'est une très belle signification. On vous connaît sous ce nom en tant que musicien et interprète. Mais vous êtes également scénariste et coach d'acteur. Vous avez notamment travaillé sur le film Chouf de Karim Dridi et vous avez été jusqu'à Cannes avec ce film. Qu'est-ce que vous faisiez sur ce film et comment avez-vous vécu l'expérience de Chouf?
Alors c'est l'écriture qui m'a amené naturellement à travailler sur d'autres supports. Ça pouvait être donc au départ j'écrivais des chansons. Et ensuite, eh ben, tout doucement, on m'a demandé d'écrire différemment sur d'autres types de supports. Et ce qui m'a amené sur cette expérience, c'est que j'ai fait une tournée de Jérusalem à Gaza avec Karim Dridi. Et suite à ça, eh ben, lui, il rentrait dans le processus d'écriture, de voilà, tout ce qu'il allait avoir, tout le casting, tout ce qui allait se passer pour Chouf. Et puis, c'est mon école à moi. Ici, vous apprenez à scénariser, à mettre en scène et tout.
Exactement.
Ça. Et moi, j'ai appris directement dans les quartiers nord marseillais à travers un projet qui était qui était en développement. Et puis, comme tu l'as dit, on est allé jusqu'au Festival de Cannes. Ce qui était important pour moi, c'était de découvrir l'envers du décor. Je suis né à Montbéliard, moi. Je suis un enfant qui suis né ici. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Les Résidences, à Belfort. Et on voit un peu le trafic de stupéfiants, comme voilà, ça me touchait parce que je voyais comme tout le monde pouvait être touché par ce type de consommation de drogue. Et comme c'était un peu banalisé, et j'ai eu des proches qui sont tombés malades, de la schizophrénie, des choses comme ça. Et je voulais savoir un peu comment ça se passait et approfondir le sujet. Et puis avec Chouf, on est allé là où personne ne va. Et voilà, c'était une superbe expérience. Humaine avant tout.
Et un très beau film aussi. Vous Merci. Avez un premier beau projet, c'est de parcourir les rives de la Méditerranée à la découverte de différentes cultures. Vous avez réalisé un documentaire avec Karim Dridi, justement, nommé Le Porteur de Joie. D'où vous est venue cette idée de projet et pourquoi l'avoir réalisé?
Alors, comme je vous dis, j'ai grandi. En fait, on est le fruit d'un peu de là où on vient. Moi, je suis un arbre des résidences. Mais je suis un peu un mélange aussi avec Montbéliard, mais je suis aussi un mélange de l'Afrique. Et j'ai grandi avec des Turcs, j'ai grandi avec des Yougoslaves, j'ai grandi avec des Sénégalais, j'ai grandi avec des gens, ce que j'appelle la France du monde. Nos parents sont partis en exil, ils sont venus en France et nous, on a grandi ici en France avec cette langue française. Et je me suis dit, pourquoi pas retourner, donc changer le fantasme du pays qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît que la France. Hein. Je me suis dit, la meilleure façon de le faire, ça pouvait être aller rencontrer les musiciens, les artistes dans ces pays méditerranéens. Et puis, à travers 12 documentaires, de ramener un peu de matière et puis de la partager. En fait, moi, j'ai toujours été un Français du monde, depuis que je suis gamin. Je n'ai pas eu à m'intégrer, moi. Je suis intégral. J'ai retrouvé à travers ce projet toute la force de cette France qui pouvait être connectée en même temps avec la Turquie, en même temps avec le Liban, en même temps avec la Tunisie, en même temps avec l'Espagne, en même temps avec le Portugal que j'avais pas encore découvert, en même temps avec l'Italie. Donc c'est ça qui m'a donné cette idée. Je me suis dit en fait c'était juste histoire d'échanger le fantasme d'un pays qu'on connaît pas contre la réalité du monde dans lequel on vit.
D'accord. Vous faites énormément de choses dans votre vie, comme on a pu le remarquer, et c'est vraiment remarquable. Et plus particulièrement, en ce moment, vous travaillez sur des projets interquartiers qui permettent à des jeunes de quartier de participer à des projets artistiques. Pourquoi cette démarche et quel est le but?
Alors, au départ, c'était une expérience. J'ai rencontré Robert Pistoretti, qui est le directeur de la MJC Petite Hollande. Et cette expérience, elle voulait, en fait, je voulais vérifier est-ce que, à travers des ateliers collectifs, on pouvait faire voir évoluer des individus. Donc, c'est des ateliers créatifs. Donc, rien n'est imposé. C'est ces personnes-là qui travaillent. Donc, comme vous le dites, c'était dans le cadre d'un projet interquartier pour des luttes contre la radicalisation, toutes ces choses-là. Moi, je dis les radicalisations. Et puis, ben, c'est ce monsieur, Robert, eh ben, il m'a dit « Ok, je lui dis, bon, on va travailler pendant 3 ans » et on a mobilisé des artistes locaux et on est rentré dans un projet de création. La première année, on a fait la cabine, donc c'était une ciné-pièce. La deuxième année, on est parti sur un truc un peu, un drame romantique qui s'appelle Bella Ciao. Et puis, tout doucement, ben, le niveau est monté, la créativité, ben, elle s'est exprimée. Puis, on est passé d'un projet interquartier à un projet européen la deuxième année. Et aujourd'hui, on arrive à un projet totalement cinématographique. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ne voit pas les choses. Pour moi, l'art, c'est un rapport humain. J'ai pas un truc, j'ai pas des étoiles, ça n'a rien à voir avec tout ça. Pour moi, la musique, le cinéma, la photographie, c'est comme être menuisier, c'est comme être pâtissier, c'est un corps de métier qui doit entrer, ben voilà, qui lie les gens. Et cette l'expérience qu'on est en train de vivre là, parce qu'il va y avoir le film, on va tourner un film. J'espère que vous serez partenaire. Hein.
On sera tous voilà, là, bien évidemment.
On va tourner un film ici dans le pays de Montbéliard. Et puis, ben, l'idée, c'est, comme je vous dis aujourd'hui, maintenant, c'est plus interquartier, c'est devenu intergénérationnel parce qu'on a des enfants de 6 ans et on a des adultes, des vieux adultes, voilà, plus vieux que moi encore. Et puis voilà, c'est tous des artistes en apprentissage. Moi, je ne connais pas la notion, je ne fais pas de différence entre un professionnel et un amateur. Pour moi, il y a les bons et les mauvais, hein. Et les moins bons, on va dire. Voilà, c'est tout.
Et en parlant d'art, pensez-vous qu'une éducation artistique est essentielle chez les jeunes ?
Pas que chez les jeunes. Quand on arrête d'apprendre, on est mort, tout simplement, hein. C'est tout. Quand on arrête d'être curieux et de vouloir apprendre, on devient malheureux et on se fatigue. Donc pour moi, l'éducation artistique, que ce soit... tout à l'heure, vous parliez de quartier. C'est pas quartier seulement, c'est aussi le milieu rural. C'est tous les quartiers, voilà. C'est pour tout le monde. Je pense que les peuples, les grands peuples, sont ont des grands artistes. C'est comme ça. Et que ça passe par l'éducation. Et moi, j'aime ce travailler, par exemple, avec des enfants, avec des jeunes. Là, j'ai un projet sur une chorale avec des personnes, des retraités et des ados. Je ne suis pas pour sectoriser les tranches d'âge. Tu vois, moi, j'ai des amis, ils sont très, très vieux ou des amis qui sont très, très jeunes. Moi, je ne suis pas pour traîner qu'entre vieux ou traîner qu'entre jeunes. Donc, je pense que l'art est un pont. Je pense que l'art est un lieu d'expression et que oui, l'éducation artistique, elle est non seulement nécessaire, mais encore plus aujourd'hui dans des époques où on peut vite éteindre la lumière et faire croire aux gens tout ce qu'on a envie de leur faire croire.
Eh ben, merci beaucoup, ce fut de très belles paroles. Merci d'avoir répondu à nos quelques questions et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets.
Merci pour l'invitation et puis bonne continuation à toi aussi.
Merci beaucoup.
Ciao, ciao.
Está cambiando de camino. Il est 20h, bonsoir à tous.
Ah, second poteau pavard.
Non mais allô quoi.
Y a quoi à la télé?
Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans l'actualité, aujourd'hui, on va avoir quelques sujets et puis bien entendu quelques news. Mais tout de suite, la plus importante, c'est bien entendu TF1 qui est dans le mal avec Danse avec les stars face à France 3. Malgré le nombre de vidéos qui se réduit et l'élimination de Moundir la semaine dernière, TF1 n'arrive toujours pas à relever la tête de l'eau avec une deuxième semaine où ils ne sont toujours pas leaders des audiences. 3,36 millions de spectateurs, c'est juste 30% de moins que la saison précédente au même instant. Et TF1 n'est pas au bout de ses peines puisqu'il reste encore 7 épisodes à produire, c'est autant d'occasion qu'à M6 ou France Télévisions de devenir leader du samedi.
Cependant, TF1 se rattrape lundi soir avec son nouveau téléfilm Le Premier Oublié avec M. Pokora et Muriel Robin à l'affiche et traité de la maladie d'Alzheimer. On nous raconte l'histoire d'Axel qui retrouve sa mère atteinte de cette maladie. D'un côté, il y a la famille qui veut absolument la mettre dans un centre dédié aux personnes malades. De l'autre, il y a Axel qui se bat pour elle face aux crises. J'ai beaucoup aimé ce téléfilm, car on pouvait tous s'identifier à travers le programme avec la famille, la psychologue ou bien la personne malade. C'était vraiment très intéressant. Au final, est-ce un gros carton pour TF1 ? Vous le saurez plus tard.
Mais tout de suite, une autre information encore plus importante, l'équipe de Quotidien agressée par les militants de la Manif pour tous. En effet, selon le Huffington Post, Innovant Benedetti, figure de l'extrême droite française, s'en est pris à l'équipe de reportage de la célèbre émission En Marche de la Manifestation. Tous selon les organisateurs. Faux, répond l'équipe de Quotidien, cette agression est certes fortement réprimandée par les organisateurs, mais nuit au débat et ne redore pas l'image des anti-procréations médicalement assistées.
Parlons M6, une nouvelle émission encore de coaching a été diffusée hier soir sur le groupe M6, Objectif 10 heures de moins, présenté par la célèbre Christina Cordula. L'émission consiste à relooker des jeunes femmes qui sont mal dans leur peau en les aidant avec la médecine esthétique. Mais M6 adore faire ce genre d'émission, mais perd souvent des téléspectateurs au fil du temps. Est-ce que cette émission a sauvé le Titanic ? Malheureusement, le Titanic a coulé avec plus de 1,6 million de téléspectateurs à son bord. Maintenant, le moment que vous attendez tous, les audiences de la semaine.
Les audiences, gros coup fort pour TF1 avec deux jours en position de leader sur la grille des programmes. Dimanche avec le cultissime Intouchable avec 6,442 000 spectateurs. L'occasion de vous rappeler qu'avec la nouvelle réforme de l'audiovisuel, il y aura 3 coupures pub au lieu de 2 pour les films de moins de 2 heures. Et la deuxième victoire de TF1 cette semaine, c'est Le Premier Oublié. Paris gagnant pour Matt Pokora et Muriel Robin, avec quasiment 6,5 millions de téléspectateurs. C'est quasiment deux fois plus que L'Amour est dans le Pré, sur M6 le même jour. Mais c'est également 74 fois moins que la plus petite audience de la semaine, Energy 12 avec Superstore.
C'est maintenant la fin de cette chronique. Je remercie Lucas et Tristan pour ces belles paroles. Et nous allons maintenant écouter Midnight de Willy Lindo. Oh.
Car
Tout de suite, nous passons à la chronique littéraire présentée par notre charismatique Cahil. Bonjour Cahil.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je dois vous parler de ce qui m'arrive en ce moment. Et je pense que je ne suis franchement pas le seul dans cette situation. C'est un constat qu'on peut faire pour une majorité d'étudiants, mais j'aime mon lit. Je l'adore et pourtant je ne le vois pas souvent. Alors aujourd'hui, en me réveillant complètement à la bourre, je me suis dit comme chaque matin que cette couette molletonnée était beaucoup trop douce pour que je la quitte de si bonne heure. Je ne passe plus assez de temps dans mon lit. J'aimerais y passer plus de temps. Donc, ce poème de Jacques Prévert, paru dans un recueil de poésie qui s'intitule « Choses et autres », je le dédie à mon lit. C'est l'hommage au lit. Jamais il n'est dit dans leur litanie et jamais n'est lu dans leurs homélies. Toujours la sainte table, toujours le saint siège, jamais le saint lit dans l'immobilier de leur liturgie. Ô ma jolie, c'est la magie du lit et grâce à elle, l'amour échappe belle. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi la sainteté, pourquoi la religion sont impliquées dans ces affaires de literie? Et ça, c'est la faute de Jacques Prévert, le poète, qui a fait partie des surréalistes à partir des années 20, vécu mai 68 à 68 ans, bref, un homme qui était sûrement cordial, mais qui avait néanmoins, comme beaucoup de ses amis, une légère animosité face aux dogmes religieux. Mais c'est vrai, le Saint-Lit, il n'existe pas, il est oublié. L'Église n'a jamais parlé que de la Sainte Table ou le Saint-Siège, très utile pour s'attabler comme le Messie lors de son ultime repas, mais très peu pratique quand il s'agit de faire une sieste.
C'est vrai.
Et on est forcé, encore aujourd'hui, de s'extirper de son lit pour aller en cours, au travail, alors que le lit, c'est le meuble le plus sacré, l'endroit le plus intime que l'on puisse trouver, le lieu de l'amour et des rêveries. Souvenez-vous, enfant, si comme d'autres rêveurs, vous vous inventiez des mondes entiers en fixant le plafond de votre chambre au chaud sous une couette. Eh bien, j'ai trouvé avec Jacques Prévert une couette de substitution, un plaid bien doux et bien chaud. Et ce plaid, c'est la rêverie, c'est la poésie.
Thank you.
radio. Nous sommes toujours en direct sur Ma Radio. Vous venez d'écouter Midnight de Willie Jindo et non pas Golden de Jill Scott que nous avions écouté quelques instants auparavant. J'ai fait une petite erreur, excusez-moi. Il m'a rejoint autour de cette table, Mathieu, prêt pour sa chronique Œuvrigine. C'est à toi.
Comment ne pas oublier ces notes tonitruantes qui ouvrent Othello d'Orson Welles, film de 1952 récompensé au Festival de Cannes par la Palme d'Or. Le film est une adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Shakespeare qui raconte la force et la chute d'Othello, un homme puissant, fascinant, jaloux, mais manipulé par Iago, qui le poussera au meurtre de sa femme, Desdémone. L'on peut facilement associer Orson Welles à Shakespeare. Sa passion pour le dramaturge commence dès l'âge de 8 ans en apprenant par cœur le roi Lear, puis cette passion ne fera que s'amplifier par la suite, en mettant en scène Macbeth ou Jules César à Broadway, en illustrant les pièces de Shakespeare pour les enfants, ou en réalisant des films à partir des œuvres de Shakespeare tels Macbeth, Othello ou Falstaff. Avec Othello, le réalisateur adapte à sa manière la pièce et n'hésite pas à bousculer le texte en changeant l'ordre des scènes, des répliques et même en attribuant des répliques de certains personnages à d'autres. Le film débute par la représentation de la mort du personnage principal, comme dans un autre des longs métrages de Welles, Citizen Kane. Mais ensuite, surprise, pas de plan séquence, habituel chez Welles, mais de nombreux plans fragmentés. Comment cela se fait-il ? En fait, Orson Welles, qui était son propre producteur pour ce film, n'avait pas les moyens de louer une grue et a donc décidé de fragmenter son film au maximum en variant les plans. Welles a dû alterner entre tourner Othello qui prit 4 ans et cachetonner à travers toute l'Europe en tant qu'acteur de série B pour récolter des fonds pour son propre film. Dans ce film, par exemple, un champ contre champ peut avoir 9 mois et des milliers de kilomètres de différence d'un plan à l'autre. Cette œuvre montre donc la force du montage qui, par un puzzle ingénieux, arrive à faire de l'assemblage de fragments un film qui a sa propre cohérence.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette chronique. Je suis Mathieu et je vous présente le Flash Info qui vous résume l'actualité en France, mais aussi à l'international. Le premier fait à relever de ces derniers jours est une attaque. Un employé de la préfecture de police de Paris a attaqué au couteau des fonctionnaires de police dans leur bureau. Il tue 4 d'entre eux et en blesse un autre. Ça s'est passé la semaine dernière, le 3 octobre. L'assaillant, un homme de 45 ans qui travaillait au service informatique de ce même bureau, a été abattu par un stagiaire. Si les enquêteurs ont d'abord privilégié la piste non terroriste, ils ont découvert peu après que l'assaillant était en relation proche avec des islamistes radicaux et que sa femme, à présent en garde à vue, lui a déclaré « Seul Dieu jugera tes actes ». Elle lui a confié cette phrase juste avant qu'il aille acheter un nouveau couteau en céramique, 2 heures avant le drame, couteau qui passe donc inaperçu au détecteur de métaux à l'entrée du poste de police. Le deuxième fait de notre flash info est l'incendie important qui s'est produit à Rouen sur le site Seveso appartenant à l'usine Lubrizol. En plus des retombées d'hydrocarbures, comme du pétrole et retrouvées dans la pluie les jours suivant l'incident, le problème a été le manque de couverture médiatique de cet événement urgent durant les premiers jours. Parce qu'aucun état d'alerte n'a été établi, pas d'alarme d'alerte citoyenne qui est tout de même une norme pour indiquer aux habitants qu'il faut s'isoler chez soi. Pourtant, plus de 5000 tonnes de produits toxiques ont bien été emportées dans l'incendie et donc dans l'air, et donc ont contaminé l'air de Rouen et ses alentours de la Normandie. Mais la mort de l'ex-président de la République Jacques Chirac a bel et bien pris le dessus médiatiquement. Ce n'est que quelques jours plus tard, comparé à l'incendie, que l'on entend vraiment sur les ondes parler de l'incident. France 2 a d'ailleurs même publié une vidéo de débunkage sur les mensonges du gouvernement quant au danger de la qualité de l'air à Rouen. La réalité est bien pire que ce qui avait été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et enfin, place au troisième fait, cette fois-ci à l'international, les Hongkongais sont de nouveau dans la rue ce week-end pour manifester au nom de la démocratie, très absente dans cette ville chinoise sous la pression du gouvernement. Ils ont chacun porté un masque identique, blanc. Plusieurs manifestants ont été victimes de blessures par balles, cependant la violence se pratique des deux côtés de l'affrontement, car plus tôt de la journée, des dizaines de stations de métro utilisées par plusieurs millions d'habitants ont été saccagées par quelques minorités extrémistes du mouvement manifestant. Merci de m'avoir écouté, c'était Mathieu pour le Flash Info.
Ma radio. Nous retrouvons tout de suite Stéphane avec l'Actu Sport. Bonjour Stéphane.
Du monde de rugby au Japon, le crunch rencontre France-Angleterre pourrait être annulé en raison du typhon qui menace la rencontre. Pour l'instant, la rencontre est toujours prévue pour ce samedi 10h15 heure française. Autre rencontre, Japon-Écosse pourrait également voir la rencontre annulée. Pour l'instant, les différentes fédérations surveillent la météo. On passe tout de suite à l'actu foot désormais. Demain débute la 7e journée de qualification pour l'Euro 2020. L'équipe de France se déplacera en Islande ce vendredi, puis recevra au Stade de France la formation turque. Les Bleus ne vont pas pouvoir compter sur Hugo Lloris et Kylian Mbappé. Le gardien champion du monde a subi une lourde blessure au coude ce samedi face à Brighton. Il ne devrait pas revenir sur les terrains avant l'année prochaine. L'attaquant du Paris Saint-Germain, lui, ne s'est pas assez remis de sa blessure à la cuisse et sera donc remplacé par Alassane Plea, attaquant du Borussia Mönchengladbach. Autre info, ce soir, grande affiche internationale, Allemagne-Argentine à Dortmund, coup d'envoi à 20h45 en match amical. On passe tout de suite après la débâcle ce dimanche soir dernier. Silvinho a été écarté des bancs lyonnais par le président Jean-Michel Aulas. En effet, l'Olympique lyonnais a concédé une lourde défaite 1-0 face à son grand rival dans le derby du Rhône contre l'AS Saint-Etienne. Le club rhodanien recherche actuellement un nouvel entraîneur pour sa formation. Parmi les candidats phares, Laurent Blanc et Arsène Wenger sont les favoris. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Stéphane. Tout cela risque d'être très mouvementé. On souhaite bien évidemment un bon rétablissement au gardien de l'équipe de France et Kylian Mbappé qui nous écoute, j'en suis sûre. Et on écoute tout de suite une nouvelle musique. We'll be right back.
Westerner.
L'émission ciné.
Toujours en direct depuis. Et tout de suite, nous retrouvons Camille et Johan pour la critique cinéma.
Bonsoir, alors moi je vais vous parler des films. On commence tout de suite avec les sorties ciné du mois. Tout d'abord, on va parler de Gemini Man, sorti le 2 octobre. C'est un film de Ang Lee avec Will Smith. Pour vous donner un petit résumé, Henry Rogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. C'est un film d'action et de science-fiction. Will Smith y interprète les deux personnages principaux. On peut noter dans ce film l'avancée technologique du rajeunissement numérique qui a permis un rajeunissement très pointu de Will Smith, lui permettant d'interpréter le second rôle. Nous avons ensuite Joker, un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Il est sorti aujourd'hui même. Ce film relate une histoire originale brossant le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession, méprisé par la société. En un week-end, le film a fait 93,5 millions de dollars de recettes aux US. C'est le meilleur démarrage d'octobre. Ce chiffre est assez dingue car c'est un film d'auteur d'un budget de 55 millions de dollars. Il a donc d'ores et déjà été rentabilisé. Ce succès peut s'expliquer par son thème, traitant de ce personnage emblématique de Batman. Mais ce film, lauréat du Lion d'Or au Festival de Venise, a déjà fait couler beaucoup d'encre par rapport à la violence au cinéma et à sa possible influence néfaste sur le spectateur. Il est donc interdit aux moins de 12 ans.
Compréhensible.
Ce mois-ci, nous avons également entre autres la sortie de Maléfique 2 avec Elle Fanning et Queens avec Lily Reinhardt, connue pour son rôle dans Riverdale, le 16 octobre. Nous avons également Terminator Dark Fate le 23 et Zombieland 2 ainsi que Doctor Sleep le 30 octobre. Je passe la parole tout de suite à Johan.
Bonsoir. Donc moi je vais vous parler des sorties Netflix qui arriveront durant ce mois d'octobre. Tout d'abord on a Big Mouth, la saison 3, qui est déjà sortie le 4 octobre, mais elle n'était pas seule puisqu'elle était accompagnée de Peaky Blinders, saison 5, sortie aussi le 4 octobre. Nous avons aussi Riverdale, donc, une série créée en 2017 par la chaîne télé américaine The CW et diffusée sur Netflix. On peut y voir Lily Reinhardt, donc, ainsi que Kiji Apa, Camila Mendes et Cole Sprouse dans les rôles principaux. Riverdale est adaptée du comic book Archie Comics. Elle n'en est pas moins adaptée puisque elle est très différente de son homologue papier. En effet, excepté les lieux et les personnages, le reste de Riverdale le fait à sa sauce, dépeignant ainsi une série mélangeant habilement teen série et film noir. Après une saison 1 parfaite, une saison 2 dans la moyenne, ainsi qu'une saison 3 catastrophique, nous pourrons retrouver nos personnages préférés dans une saison 4 qui arrive demain. Nous avons ensuite Insatiable et Planqueur, qui auront tous les deux une saison 2 le 11 octobre. Baby aura aussi sa saison 2 le 18 octobre. Le 24 octobre, nous pourrons voir débarquer une nouvelle série, Daybreak, une série originale Netflix dépeignant un univers à la Mad Max, l'univers un peu post-apocalyptique, mélangé aussi avec une teen série. La saison 6 de BoJack Horseman aura droit à sa première partie le 25 octobre, Arrow à sa saison 8 le 29 octobre, et Kengan Ashura aura droit à sa partie 2 le 31 octobre. Mais le 11 octobre, nous pourrons voir aussi débarquer le film El Camino, un film inspiré de la série Breaking Bad, qui va revenir sur les événements arrivés à Jesse Pinkman 6 ans après la fin de la série. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée.
Ma radio. Ils m'ont rejoint autour de cette table, c'est Erwan et Laurie, prêts pour l'émission musique.
L'émission musique.
Bonjour Erwan.
Bonjour Léa, alors je me présente donc moi comme tu l'as dit, c'est Erwan et donc du coup moi je vous rejoins dans quelques minutes pour un live avec Adeline, une jeune artiste belportaine.
Et bien évidemment suivi d'une interview de l'artiste. Bonsoir à toi aussi Laurie.
Bonsoir.
Je vais donc te laisser nous présenter l'actualité musicale du moment.
Très bien, alors dans l'actualité musicale en ce moment nous allons parler festival. Et qui dit festival dit Hellfest bien sûr. C'était ce midi qu'il fallait acheter les passes 3 jours. Comme l'année dernière, les passes sont parties à vitesse grand V. C'est à 14h15 que le site affichait sold out. Même si le timing est impressionnant, les vieilles charrues ont battu le record, vendant 55 000 places en 9 minutes. Pas étonnant, sachant que Céline Dion est à l'affiche.
Évidemment.
Dans l'actualité musicale toujours, c'est la grande période des annonces de sortie d'albums. En effet, la jeune artiste Maëlle, grande gagnante de la 7e édition de The Voice, sortira son premier album intitulé Maëlle, le 18 octobre prochain. Mika a sorti un nouvel album intitulé My Name is Michael Holbrook, sorti le 4 octobre dernier. L'artiste international a déjà entamé sa tournée et il sera à l'Axone de Montbéliard le jeudi 30 janvier 2020. Elle a fait son grand retour, Marina Kaye, jeune artiste de 21 ans, mais déjà avec presque 6 ans de carrière en tant que professionnelle de la chanson, revient avec son nouveau single intitulé Twisted. L'artiste française, qui s'était absentée pendant un an et demi, dit avoir, pendant cette période, réalisé son troisième album, qui fera suite à ses deux premiers albums, Fearless et Explicit. Dans l'actualité musicale toujours, dimanche dernier matin, nous avons un célèbre batteur fondateur du groupe Cream est décédé à l'âge de 80 ans. Il avait créé le groupe Cream aux côtés de Eric Clapton. Donc c'est une disparition tragique qui a rendu triste beaucoup de fans de rock, évidemment. Et donc maintenant nous allons écouter Twisted de Marina Kaye sur ma radio. I don't wanna hurt you. No, you make my gray skies blue and heart bleed red. Babe, I gotta warn you. You don't know what I've been through. I know what's in my head. And I don't wanna lose it. You don't wanna see my dark side. You don't wanna see me undone, untied, twisted. I'm twisted. You don't wanna hold the real me. Cause all I have and all I'm underneath is twisted. I'm twisted. Your eyes till you're broken too. And I don't wanna lose.
You don't wanna see my dark side. You don't wanna see me undone, untied, twisted. I'm twisted. I'm not a sad girl.
Nous allons maintenant passer au live avec Adeline qui va donc nous interpréter, excusez-moi, l'une de ses compositions. Je vous souhaite une bonne écoute.
Je suis dingue de toi en fait, dingue de tout peut-être. J'ai pris un coup sur la tête, putain faut que ça s'arrête, que je me déconnecte. J'ai des milliards de questions qui rentrent dans ma petite caboche et ces problèmes d'opinion que j'ai avec mes proches, ça me fait peur. Ne t'en fais pas pour moi, même si en moi ça résonne comme les cliquetis de l'eau dans une pièce qui donne. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai la musique qui me donne plein de notes harmonieuses. Ça résonne sur le bien, sur le bien. Toi, tu me dis que la vie est belle, qu'elle chantera pour celle qui aimera. T'as pas de mal à dire je t'aime. Toute ta vie de poème grandira avec moi. Je suis dingue de tout en fait, ou juste de toi peut-être. C'est vrai que j'aime nos têtes à tête. Et quand on fait la fête, je me reconnecte. Tu me fais oublier les questions, les malaises avec mes proches. Ces différences d'opinion, je les range dans mes poches. Ça me fait plus peur. Ne t'en fais plus pour moi, car en moi ça résonne comme un torrent acharné qui a besoin de personne pour avancer. Pour avancer. Ne t'en fais plus pour moi, même si plus rien ne me donne autant d'amour que toi. Y'a plus besoin de personne pour m'aimer. Pour m'aimer. Et toi, t'as pas de mal à dire je t'aime. Toute ta vie de bohème s'étendra avec moi.
Thank you.
en face de ma glace. J'ai peur qu'un jour mon reflet me lâche des menaces. J'ai la cuisse aussi large que deux jambes de top modèle, mais je me rassure en me disant qu'elles sont loin d'être belles. Arrêtez de me bassiner avec vos pubs sur papier. Publicité n'est pas réalité. Non, non, non. Non, non, non. Le 32 n'est pas une taille à part pour les pieds des gamines. Non, non, non. Non, non, non. Ne prenez pas comme modèle les filles des magazines. En plus t'as vu leurs joues, elles sont creusées partout. Si t'as le malheur de la baiser, ramasse ses os à chaque giclée. En plus t'as vu leur cou avec ma main, je fais le tour. Si j'ai le malheur de trop serrer, je risquerai de les tuer. Arrêtez de me bassiner avec vos pubs à la télé. N'est pas réalité. Non, non, non. Non, non, non. Le 32 n'est pas une taille à part pour les pieds des gamines. Non, non, non. Non, non, non. Ne prenez pas comme modèle les filles des magazines. Y'a un coup de Photoshop à chaque photo qui se développe. L'image que tu vois sur les pages, c'est un idéal qu'on partage. La perfection n'existe pas, alors maintenant accepte-toi. Plutôt que de te foutre les doigts pour ressembler à ça. Non, non, non. Non, non, non. Le 32 n'est pas une taille à part pour les pieds des gamines. Non, non, non. Non, non, non. Ne prenez pas comme modèle les filles des magazines. Non, non, non. Non, non, non. Le 32 n'est pas une taille à part pour les pieds des gamines. Non, non, non. Non, non, non. Ne prenons pas comme modèle les filles des magazines. Calmement dans ses prairies, ses eaux profondes. Dans ses choix, y avait pas de limite, de mauvaises ondes. Elle s'habillait de toutes couleurs, les saisons la rendaient belle. Elle était forte, jamais de peur. Nous l'avons rendue faible avec nos grosses godasses. On a débarqué, laissant des traces qu'on ne peut effacer, abîmer. Oui, ma planète, tu pars en couille. Moi, je t'en veux pas car on te souille. On a consommé ta patience tellement d'années sans reconnaissance. Oui, ma planète, si tu le souhaites, pète un gros cap, fais-nous notre fête. Ça va peut-être réveiller ces autres qui n'ont pas compris que t'étais leur hôte. Elle dormait calmement dans ses forêts,
et ses déserts avant qu'on épuise l'énergie de toutes ces terres. Elle gronde de temps en temps, nous fait sentir qu'elle fait la gueule. Allons-nous changer de récit ou tomber d'un coup d'un seul avec nos grosses godasses? On ne s'est pas gêné, laissant des traces qu'on ne peut effacer. Moi je t'en veux pas car t'es la seule à nous avoir toujours donné les ressources pour y arriver. Mais ma planète, tu peux le sentir, qu'il y a quand même peut-être un avenir. On pourra jamais te réparer mais essayer de te choyer.
Radio.
Adeline qui va nous rejoindre dans quelques instants pour une petite interview. Donc comme je vous le disais, Adeline a un timbre de voix très particulier, c'est vraiment très joli ce qu'elle fait. Sachez que c'est des compositions personnelles, c'est elle-même qui compose ses morceaux. Si vous souhaitez la voir, très cher auditeur, sachez qu'elle sera au concert Sandwich le 19 novembre au Théâtre du Granit de Belfort. Adeline vient de nous rejoindre, bonjour Adeline.
Bonjour.
Est-ce que vous allez bien?
Ouais, ça va, super, merci.
Nickel. Alors Adeline, j'avais une première question. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire les titres des différentes compositions que vous venez de nous jouer?
Alors la première, c'est une chanson qui s'appelle « Toi ». La deuxième, c'est « Les filles des magazines ». Ça sera le titre de mon EP, mon premier EP. Et après, c'était « Ma planète ».
D'accord, merci beaucoup Adeline. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi Adeline? Parce que sachez, cher auditeur, que donc, le nom d'artiste d'Adeline est Ad apostrophe Line. Alors pourquoi ce nom?
Alors mon prénom c'est Adeline. Et en fait, quand ma mère m'engueulait, en général, elle disait Adeline. Et je ne pouvais pas saquer ça. Donc du coup, voilà, j'ai décidé d'enlever ce-là et de mettre l'apostrophe. Et c'était un petit clin d'œil au fait que je n'aimais pas qu'on accentue le E quand on m'appelait, quoi. Voilà.
D'accord, bah merci beaucoup. Adeline, comment toute cette expérience a-t-elle commencé?
Très simplement, je dirais, c'est à la suite de cours de guitare. J'ai commencé à chanter en même temps et après j'ai pris des cours de chant. Et ça fait 10 ans maintenant que je fais des concerts et donc c'est une aventure plutôt cool, quoi. C'est venu naturellement, en fait. Voilà.
Ben, content que ça se passe bien pour vous.
Merci.
Quelles sont vos influences musicales, Adeline?
Il y en a beaucoup. Quand je fais de la reprise, ça part dans tous les sens, mais j'aime énormément Amy Winehouse, par exemple. J'aime aussi Cabrel, j'aime aussi de l'électro comme Vitalik. J'aime énormément de choses. Après, dans ma musique, ça ne se ressent pas forcément, mais voilà, j'essaie quand même de m'inspirer de tout ce qui se passe autour, quoi.
D'accord, et donc en parlant de votre musique, Quels sont les différents sujets traités dans vos compositions ?
Un peu de tout, la vie de tous les jours en fait, ça parle de moi, ça parle de mes potes, ça parle des gens X ou Y, ça parle de notre planète, ça parle, voilà, les filles des magazines, je pointe pas du doigt les filles des magazines en particulier, c'est plus les médias que je mets sur la sellette en fait, faut pas prendre mal le fait que je dise que le 32 n'est pas une taille, etc. C'est le fait que j'accepte pas forcément par exemple que les médias nous donnent... Un genre de personne voilà, modèle. Et ça, c'est pour les filles comme pour les garçons, c'est pareil. Donc voilà, c'est... ma musique, c'est un peu la vie de tous les jours, quoi.
Eh bien, très bien, c'est de très bonnes idées, c'est très respectable de votre part. J'ai une petite dernière question. D'où est venue cette passion pour la musique qui donc vous a poussé à commencer à monter sur scène?
Je sais que ma mère écoutait énormément de musique quand on était petit, et voilà, donc on... Après, voilà, la fibre, elle est venue pour une raison que j'ignore. C'est juste que, voilà, quand j'ai commencé à jouer de la guitare toute seule et à chanter, j'ai vu qu'il y avait un truc qui marchait bien. Donc, j'ai décidé de faire des concerts. Et puis, ça a pris. On prend la température sur scène un peu quand on est dans des petits bars, des petits restos. Et puis après, on se lance dans d'autres défis. Là, j'ai bientôt fini mon premier EP. Donc, c'est cool. Là, au bout de 10 ans, c'est... Je fais de ça dignement, quoi. C'est cool.
Eh bien, bravo Adeline. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui donc sur ma radio. Ce serait très gentil de votre part. Je vous rappelle, très cher public, que Adeline sera donc présente le 19 novembre au Théâtre du Granit pour un concert sandwich. Et voilà, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, Adeline ?
Non, merci de m'avoir invité. C'était super bien. Et franchement, belle petite équipe et tout. Donc c'est cool. Merci beaucoup. De votre accueil.
Eh bien, merci beaucoup, tout l'honneur est pour nous. Voilà.
Ma radio. L'émission touche malheureusement à sa fin. Je tiens à remercier Adeline et Younes Ouattik pour leur présence. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre écoute. Et surtout, un énorme merci à tous nos chroniqueurs qui sont intervenus ce soir. Et l'équipe qui a mis en place toute cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 17 octobre, pour une nouvelle émission, de nouvelles chroniques et de nouveaux invités qui seront Milana, Nel et Brunsky Lunt. C'était Léa, je rends l'antenne.
Ma radio.